sur France Culture, il est midi. Et bonjour à tous. Dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table, mais tout de suite, quelques titres du journal de 12h30 avec vous, Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. L'information vient de nous parvenir. Le gouvernement annonce un report de la présentation du projet de loi travail en Conseil des ministres, initialement prévu, programmé pour le 9 mars, reporté donc d'une quinzaine de jours. Un report qui est destiné en principe à faire bouger ce texte sans revenir sur ses grands principes, affirme-t-on, du côté du gouvernement. On reparlera d'ailleurs de ce texte tout à l'heure dans la dernière partie, Caroline.
Oui, on parlera du travail et de la rente en compagnie de Philippe Askenazy qui publie Tous rentiers pour une autre répartition des richesses et pour réarmer le travail, c'est ses mots.
Alors, les parlementaires proches de Martine Aubry vont quitter la direction du Parti Socialiste. Leur principal représentant, le député des Hauts-de-Seine, François Lamy, le confirme ce matin sur France Inter. Comme François Hollande hier, Manuel Valls accueillit plutôt dans une ambiance tendue au Salon de l'Agriculture ce matin. Chacun doit assumer ses responsabilités, déclare-t-il, avant d'appeler donc les industriels et aussi la grande distribution à faire des efforts. Des migrants qui tentent de forcer la barrière frontalière macédonienne, donc frontière entre la Grèce et la Macédoine. Qui est le premier pays sur la route des Balkans qui avait fermé sa frontière donc hier. Aujourd'hui, il y a donc plusieurs centaines de personnes qui tentent de forcer actuellement cette frontière alors que les forces de l'ordre tirent des grenades lacrymogènes. Hier, Angela Merkel affirmait que l'Union européenne ne pouvait pas laisser la Grèce plongée dans le chaos, disait-elle, face à l'afflux migratoire. Et puis on parlera aussi de ce qui se passe à Hong Kong, puisque 4 des 5 libraires qui avaient été enlevés à Hong Kong il y a plusieurs mois font des confessions publiques sur la télévision chinoise et avouent avoir vendu illégalement en Chine des livres non autorisés via une boutique en ligne. L'invité de la séquence interview, ce sera Dominique Bussereau, qui est le président de l'Assemblée des départements de France. Voilà pour les titres. C'est la Grande Table tout de suite qui commence. Caroline Brouet.
Merci et à tout à l'heure, donc Antoine Mercier. Nous commençons autour de deux nouveaux pure players qu'aurait sans doute salué Umberto Eco, lui qui analysait dans son dernier roman Numéro Zéro les travers et les lumières du journalisme et qui affirmait que les principales informations peuvent se réduire à une seule colonne du journal, comme le fait le New York Times, et que c'est pour cette raison que la presse exige doit approfondir l'actualité, faire de la place aux idées. Ils sont trois assis aujourd'hui autour de la table. Catherine Portevin, tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, ancienne de Télérama, où vous avez dirigé la rubrique Livre-Essai, les pages débat, la collection Horizon des hors-séries consacrées aux sciences humaines et aux sujets d'actualité. Vous êtes aujourd'hui la chef de la rubrique livre du magazine Philomag. Et vous avez fondé tout récemment les Archives du Présent. C'est en ligne depuis le 10 février dernier. Et puis autour de la table également, Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Journaliste également, ancien membre de la rubrique Médias de Libération que vous avez quitté en 2015. Vous êtes les cofondateurs du site Les Jours que vous présidez, Isabelle Roberts, et que vous co-dirigez, Raphaël Garrigos, avec Alice Géraud, Les Jours qui ont été lancés sur le net le 11 février. Donc tout ça est tout à fait simultané. À vrai dire, vous n'êtes pas les seuls, on en attend d'autres. Y a même un journal, mais cette fois pas en ligne, un journal papier qui vient de sortir aujourd'hui même, un nouveau quotidien britannique lancé par le tabloïd de Daily Mirror qui s'appelle The New Day. Il y en aura d'autres, on peut d'ailleurs être surpris de voir se créer ainsi de nouveaux sites ou de nouveaux journaux. Alors même qu'on ne cesse de dire qu'on croule sous l'information, qu'on ne sait plus où donner de la tête, qu'on n'arrive plus à faire le tri, de quoi est née l'envie de faire un nouveau site pour les uns et pour les autres? Allez, je vais commencer par vous, Catherine Portevin.
Mais écoutez, justement, on croule sous l'information. Je ne sais pas si finalement c'est tant sous l'information qu'on croule que sur du bruit. Et donc nous, l'idée, c'était très simplement de dire il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire non pas traiter l'information, mais en quelque sorte la produire à notre manière, en ralentissant les rythmes, en pariant sur des choses qui vont rencontrer forcément l'actualité, qui est la rencontre de fait, puisque nous sommes tous contemporains dans ce monde et qu'on est tous, nous qui fabriquons ces sites, on est journalistes, mais en partant d'abord de l'intérêt qu'on peut avoir pour un sujet. Nous, en l'occurrence, c'est plutôt des entretiens avec des intellectuels, pas seulement des intellectuels, disons des porteurs d'idées, les porteurs d'idées n'étant pas justement seulement des professionnels des idées, mais ça peut être aussi des acteurs de la vie publique, comme Pierre Jox, par exemple, ou Isabelle Autissier, qui raconte aussi sa pratique de la mer. Enfin, ça peut être plein de choses. Et voilà, c'est parti de cette idée-là que l'excitation qui pouvait y avoir dans toute la presse qu'on a vécue. Et encore, moi, je suis dans de la presse lente par rapport à Libération. Le Télérama, c'est pas trépidant.
Juste un hebdomadaire.
Et Philosophie Magazine est déjà dans le temps long aussi.
C'est un mensuel. Vous avez ralenti. Hein.
Moi, j'ai beaucoup ralenti. C'est peut-être un effet de l'expérience, mais je trouve que dans la lenteur, on trouve des idées. Voilà. Et c'est ça qui nous intéresse.
Pour les jours.
Pour les jours, on n'est pas dans la lenteur, on va être dans la profondeur. Parce que nous, on a tenu vraiment à rester dans ce rythme quotidien et si possible quotidien plusieurs fois par jour même, avec les jours. Mais c'est vrai qu'on est parti du même constat en tous les cas, qui est celui de ce ras-le-bol.
Un mauvais trop-plein.
Oui, ou un frisli de l'information, qui ne nous satisfont pas en tant que journaliste et en tant que lecteur surtout. Et c'est ça qui nous a poussé, nous, à créer les jours et à vouloir faire des choix dans l'actualité, ces choix forts qui sont de choisir des sujets qu'on appelle des obsessions.
Oui, sur lesquels on va bien sûr revenir.
Qu'on veut mener à fond, profondément, sans être dans le lent, effectivement, mais dans le profond, plutôt.
L'un n'empêche pas l'autre, hein, cela dit. Une frustration de lecteur, une frustration de journaliste, Isabelle Roberts.
Pas tant une frustration qu'une envie. Une envie de faire différemment, une envie effectivement, comme le disait Catherine, de sortir de cette espèce de flux d'infos copier-coller. Bon, sur Internet, on trouve beaucoup d'infos copier-coller d'un site à l'autre, des infos gratuites. Et c'était à la fois notre choix éditorial et notre choix économique de se tourner vers le payant, qui exige une certaine sélection et voilà, d'où les obsessions et d'où ce double tempo, à la fois profondeur et à la fois quotidienneté.
Vous avez choisi les uns les autres de vous tourner vers le site internet, d'être des pure players, c'est-à-dire de ne pas exister en format papier. Pour quelle raison ce choix-là? Vous auriez pu d'ailleurs faire un choix double, c'est-à-dire d'être à la fois un site internet et un journal imprimé, d'être plutôt un journal imprimé, comme donc je citais ce Nouveau Quotidien britannique, mais il y en a d'autres, il y a des revues également, que je pense à la revue Crieur, donc qui en est à son troisième numéro. Catherine Portevin, pourquoi le choix du numérique exclusivement?
La première raison, c'est que je crois que on a tous vécu dans nos rédactions respectives l'arrivée du web vécu comme un ennemi. Ça a été beaucoup présenté comme un ennemi et pendant longtemps personne n'a su très bien quoi faire avec. Et honnêtement, ça a aussi torpillé pas mal de choses dans les rédactions. Aujourd'hui, je crois vraiment que c'est un média qui offre des possibilités. Alors on appelle ça multimédia, trimédia, peu importe comment on l'appelle. Mais justement de cette profondeur dont vous parliez, que je trouve aussi très importante. La profondeur, c'est la profondeur de la longueur, et c'est la profondeur de la longueur de la durée. Mais c'est aussi la profondeur de champ. Et la profondeur de champ, ça se donne avec des médias multiples. Pour nous, en tout cas, notre idée de l'entretien, parce que moi je trouve que c'est une belle forme journalistique, et elle était forcément vidéo, parce que j'avais envie de faire entendre la parole, j'avais envie de montrer les visages, j'avais envie que les gens soient là, voilà. Alors après, c'est une envie comme ça, ça se justifie pas forcément intellectuellement. En revanche, nous l'intérêt, c'est que on est vraiment des gens de l'écrit. C'est d'enrichir le média vidéo de l'écrit. Et c'est donc de prendre le meilleur de l'écrit pour éclairer le meilleur du web. Autour de nos vidéos, il y a un appareil de notes, un dossier, ça fait presque 100 000 signes de produits, mine de rien, qui donne de la profondeur à ce qui peut être, qui peut apparaître comme fugitif. Une image peut apparaître toujours comme fugitive.
Raphaël Garrigos, Isabelle Roberts.
On avait effectivement fait le choix tout de suite d'internet parce que déjà le papier c'est une autre économie, le papier quotidien en plus comme on veut être dans le quotidien. Et puis on avait cette envie, et pour le coup peut-être cette frustration de se dire que les sites de presse ne servaient pas assez de ce qu'était Internet. C'était souvent un décalque du papier sur Internet, et donc on a eu envie, nous, pour le coup, on n'avait pas un sentiment d'ennemi par rapport à Internet en étant en Libération. On a tout le temps baigné dedans, en tous les cas, et on voulait aller plus loin encore et pouvoir utiliser tout ce qui est possible de faire aujourd'hui sur Internet.
Isabelle Roberts.
Oui, parce qu'on parle souvent de crise de la presse. Or, il y a une crise de la presse papier qui est liée, qui est une crise économique. Mais vraiment, notre conviction, c'était qu'on n'utilisait pas à plein toutes les ressources qu'offre le numérique et que justement, il manquait ça sur Internet. C'est vrai, c'est ce que disait Raphaël. Souvent, les sites Internet sont des reproductions de la presse papier. On retrouve les mêmes rubriques alors que sur Internet ça n'a pas de sens à partir du moment, les rubriques elles sont conçues par rapport à un journal papier, c'est normal de le diviser en sections. Sur Internet on peut inventer tout à fait autre chose, d'où l'idée des obsessions qui sont une manière de revisiter l'actualité, et à l'intérieur de chaque obsession une mise en scène à la manière des séries, avec à chaque fois pour chaque obsession des épisodes, des sons, de la data, et des personnages. Et c'est ça que permet le numérique aujourd'hui, d'où le pure player.
Pour que les auditeurs qui ne sont pas encore allés voir lesjours.fr comprennent bien cette idée d'obsession, c'est en quelque sorte ce qui pourrait remplacer le mot rubrique dans un journal
Non. Non, clairement. Non, parce que les obsessions, on veut à terme en avoir à peu près une 10 à 12.
Pour l'instant, il y en a 5-6. Hein,
il y en a 7-8, même, 7-8, je crois. ce sont des sujets. Et l'obsession est éphémère. Certaines vont s'arrêter. On a donc aujourd'hui une obsession qui s'appelle les années collège, où on suit la troisième B d'un collège du nord de Paris. Cette obsession va s'éteindre avec les grandes vacances. On reprendra peut-être sur une autre saison ensuite, sur un autre angle. Nos obsessions, elles sont effectivement pas destinées à durer. C'est en cela qu'elles sont différentes des rubriques.
Il y a une obsession qui s'intitule Les Revenants aussi, qui raconte le parcours de djihadistes qui ont quitté l'État islamique.
Voilà, c'est David Thompson qui nous raconte cette première histoire d'un homme et de sa femme et de ses trois enfants qui a décidé, après le 13 novembre, dit-il, de revenir en France. Et on raconte son parcours. Il est actuellement emprisonné en Turquie. On a une obsession qu'on a lancée il n'y a pas longtemps, justement, qui s'appelle La Charnière, qui se passe en Turquie, où il s'agit de raconter la Turquie de l'intérieur. Olivier Bertrand nous raconte ça avec des séjours réguliers là-bas. Une obsession qui s'appelle La Fête du Stream, sur le streaming, une autre sur la politique. La politique avec ses nouvelles pratiques et ses vieilles ficelles, où on suit des députés un peu, dont on espère qu'ils ont de nouvelles pratiques. Barbara Romagnan, Olivier Faure et Franck Riester. Et
donc, j'en passe encore. Donc des enquêtes quand même, des enquêtes au long cours, des enquêtes qui creusent un sillon, un sujet, ce que vous appelez donc une obsession de votre côté, les jours. Vous vouliez ajouter quelque chose,
Isabelle Roberts ? Oui, les obsessions, pour moi, ça n'a vraiment rien à voir avec les rubriques, parce qu'à chaque fois, c'est un prisme, c'est une manière de revisiter l'actualité. À chaque fois, c'est du journalisme enrichi, profond, qui permet d'aller jusqu'au bout d'une idée. On n'a pas de carcan comme « Ah, il faut faire de l'international » ou « Ah, il faut faire, je ne sais pas, le salon de l'agriculture ». Par exemple, nous, ce matin, en conférence de rédaction, on s'est dit le salon de l'agriculture, on s'en fiche, hein. Voilà, on ne va pas en parler. Et c'est vraiment tout sauf des carcans.
Oui, c'est réaffirmer aussi des choix subjectifs, oui. Des choix de sujet, justement, faire pour sortir du conformisme journalistique. On vous retrouve, Catherine Portevin, avec cette idée qu'il faudrait pouvoir donner à entendre des gens qu'on a envie d'entendre voilà. aujourd'hui, puisque vos choix, en l'occurrence Isabelle Autissier, Tsétan Todorov ou Pierre Jox, qu'on trouve en ce moment là sur le site qui font l'ouverture de votre site, les Archives du Présent, sont des personnalités pour lesquelles on pourrait se dire mais pourquoi eux plutôt que d'autres ? Et bien vous répondez parce que nous avions envie de les entendre eux.
Oui, c'est une manière de dire pourquoi pas. Voilà, c'est tout. Effectivement, je crois que le journalisme que je connais bien est quelquefois phagocyté par deux dangers qui sont le premier, qui est là le fameux agenda qui phagocyte aussi à peu près tout le journalisme, c'est-à-dire il faut parler de d'un tel parce qu'il vient de sortir un livre et il y a beaucoup de gens de on ne peut pas ne pas en parler, donc les on ne peut pas ne pas pour nous c'est, au bout d'un moment ça finit par remplir toute une rubrique. Et de l'autre côté, le problème que les idées sont convoquées en illustration souvent de l'actualité. C'est-à-dire que voilà, il se passe le salon de l'agriculture. On se dit le salon de l'agriculture, il va de soi que c'est une actualité. Et on se dit tiens, qui est-ce qui pourrait. Alors après, on joue le côté, on pense que c'est décalé, pas décalé. On pourrait aller interviewer je ne sais pas quel chercheur qui travaille sur une vache, voilà, ou l'agriculture, je sais pas. Alors que ce chercheur qui travaille sur l'agriculture depuis ou sur l'histoire de l'agriculture, peut-être on pourrait aller le voir n'importe quand. Et donc nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est d'abord le contenu de ce que les gens produisent. Voilà. Donc après, on a toujours cette question de savoir sur quels critères vous allez choisir un tel plutôt qu'un tel. Je crois vraiment que c'est difficile de répondre à cette question autrement que parce que ça nous intéresse. Même si ça a l'air d'une subjectivité débridée, ça a l'air d'une extrêmement suspect, peut-être même idéologiquement suspect. Je crois quand même que c'est la base de notre métier d'aller d'abord vers ce qui nous intéresse.
Voilà. Et on a eu tendance à l'oublier, c'est ça ?
Peut-être.
Dans vos métiers, Isabelle Robert.
C'est très vrai. C'est ce qu'on appelle tout bêtement une ligne éditoriale. Voilà, faire des choix dans l'actualité ou pas dans l'actualité, décider de ce qui est important pour nous et qui va être important pour nos lecteurs. Voilà, c'est une ligne éditoriale.
Il y a dans le même ordre d'idées un autre journaliste qui était un de vos anciens collègues à Libération, Éric Loret, qui le 4 février dernier, c'est vraiment le mois de la création des sites et des nouveaux journaux, a lancé son site droguiste@fr, qui est un site qui porte sur l'actualité culturelle. Clémence Marie l'a joué téléphone vendredi soir.
On avait envie de couper le flux dans la culture et la création, sachant que notre objet, on va dire, c'est quand même beaucoup plus la création. Le journalisme culturel, à mes yeux, enfin à nos yeux jusque-là, était devenu une sorte d'actualité de l'institution ou du commerce de l'art. Ou du people, et on s'intéressait plus vraiment à ce qui se passait dans les ateliers des artistes, dans les studios des musiciens. Et donc l'idée, c'était de couper ce flux incessant people et proposer que quelques objets. Donc le papier aurait dû naturellement être cet objet qui permettait de couper le flux. Et l'idée première, c'était de faire un programme hebdo du web. On disait en plaisantant entre nous un télé 7 jours du web. D'où le travail avec le développeur et le directeur artistique pour avoir une maquette, en tout cas sur la home, un visuel qui se présente comme une grille de télé, en fait, comme une grille de programme télé, qui donne pas beaucoup de choix, qui ne se scrolle pas, et qui donc soit un petit peu comme un format papier. Donc, en effet, il y a dans l'idée, enfin, éditorialement, il y a une sorte de mixture entre un format papier ralenti qui coupe le flux et la nécessité, puisqu'on renvoie à des objets qui sont en ligne, d'être quand même sur le web, et aussi pour des raisons financières, bien entendu, parce que c'est... On peut commencer quelque chose très simplement, pratiquement sans argent, même si évidemment on est en train de chercher des investisseurs. Voilà, on commence ce travail.
Alors nous aussi, nous allons parler évidemment financement, économie, modèle économique de vos sites, mais juste sur cette idée quand même de ralentir les uns les autres, même si vous avez plutôt insisté, Raphaël Garrigo, sur la profondeur. Ça va aussi avec une forme de lenteur. En tous les cas, on prend son temps de choisir des sujets, on prend son temps pour les faire. C'est cette idée maintenant dont on entend beaucoup parler comme en cuisine, de slow journalisme. Est-ce que les uns les autres, vous revendiquez piquer de cette vague ou cette vogue de slow journalisme qui veut faire des articles de fond et qui veut prendre son temps pour faire des articles de fond, que ce soit sous forme d'entretien ou que ce soit sous forme d'enquête. On entend aussi, dans ce que dit Éric Loret, ralentir, couper le flux. Catherine
Portefin. Couper le flux, oui. Alors le slow... Pourquoi pas, j'aime mieux la valse, et puis surtout, je trouve qu'il faut la vivacité, néanmoins. Voilà, s'il s'agit de se déconnecter complètement du monde, de se déconnecter complètement de ce qui fait quand même l'actualité, je pense qu'on peut avoir un regard critique sur la manière dont l'actualité est nous est proposée ou est fabriquée, mais malgré tout, voilà, je sais pas, moi, j'ai du mal à m'inscrire dans des courants. Ouais. Voilà, qu'il soit lent ou rapide, je sais pas si c'est du slow journalisme, mais c'est effectivement se donner les moyens, parce que contrairement à ce qu'on croit, même si on dit effectivement, et c'est vrai que ça veut dire un certain effort, un certain choix de produire du long. Voilà, vous le faites avec les jours, évidemment, produire une longue enquête, quelqu'un qui est immobilisé pendant plusieurs mois, plusieurs semaines sur un seul sujet, ça a l'air, ce sont des choses qui se faisaient largement dans le journalisme depuis toujours, qui se font beaucoup moins. Prendre le temps de préparer longuement un entretien, tout ça, ce sont des choses qui sont pas si compliquées que ça à produire en réalité. On dit que ça coûte cher, c'est vrai que ça coûte un certain prix. Ça coûte justement ce que ça coûte, c'est que pendant ce temps-là, on s'agite pas. Voilà.
Donc on va nécessairement parler d'argent avec vous, Isabelle Roberts et Raphaël Garrigaud. Les jours a été en partie financé par une opération de crowdfunding en juin dernier. Les lecteurs ont pu y participer, c'est le principe. Et puis vous allez vous lancer là dans une opération de crowd equity. Parlez-nous de tout ça.
Alors oui, il y a eu plusieurs étapes. Effectivement, il y a eu le crowdfunding, le financement participatif classique en juin dernier. Et puis on a, parce qu'elle est en cours, une levée de fonds privés. Et va s'ajouter une campagne de crowd equity, c'est-à-dire c'est un crowdfunding, sauf qu'on devient actionnaire. Le crowdfunding classique, et c'est du don. Donc là, on va pouvoir devenir actionnaire sur la plateforme Anaxago à partir de 1000 euros par personne. Et l'idée, elle est cohérente pour nous, hein. C'est que de la même façon que les lecteurs ont pu faire des dons, là ils vont pouvoir devenir carrément actionnaires de leurs médias. Et je peux reprendre ce qu'a dit l'économiste des médias Julia Cagé lors de notre présentation. Quand un actionnaire met 750 000 euros, il s'achète un média. Quand 750 actionnaires mettent 1000 euros, ils s'achètent un média indépendant et libre.
Catherine Portevin, comment c'est financé les archives du présent?
Alors nous, on est beaucoup moins avancé de ce point de vue-là. On a fait un petit investissement personnel. Chacune, on est trois à l'avoir créé. Et puis on a eu des subventions pour fabriquer le site. Et maintenant, on compte vraiment sur. On voulait d'abord, nous, notre stratégie, ça a été plutôt de d'abord exister, d'abord le faire, d'abord montrer ce qu'on voulait faire, plutôt que promettre, savoir si on pouvait le faire, voilà. Donc ça, franchement, on a bricolé ça avec à partir de 40 000 euros, donc c'est pas une très grosse somme. Maintenant l'enjeu c'est l'abonnement, nos abonnés. Pour l'instant, on leur propose juste de s'abonner. Il y aura à nos abonnés, nos premiers abonnés, on va proposer ensuite de s'investir davantage.
Ça veut dire quoi s'investir ?
S'investir davantage, ça veut dire d'abord nous, on va leur proposer aussi des événements en direct, des rencontres personnelles avec les gens, parce que je crois qu'il y a toujours cette part là qui compte beaucoup, la question physique, la rencontre physique, c'est très important. Et puis et puis d'être à un moment donné des donateurs possibles. Pour l'instant, on est plutôt sur le donateur et on est en train de faire une recherche de financement, évidemment, qui passera par le crowdfunding, mais à un moment où on aura constitué une communauté d'abonnés.
Ce qui est sûr, c'est que les uns et les autres, en tous les cas, les jours comme les archives du présent, vous souhaitez, vous revendiquez même d'être des sites d'information ou des revues, je ne sais pas comment vous vous appelez, peu importe finalement, mais payants. Payants et sans publicité, les uns comme les autres. Les jours, c'est la même chose.
Exactement. Raphaël, sans pub et avec abonnement, oui. Et
on s'est même aperçu. Donc c'est le modèle Mediapart.
Oui, c'est tout à fait le modèle Mediapart qui a validé Mediapart, qui a aujourd'hui 116 000 abonnés, je crois. Et c'est un mouvement dans lequel on essaie d'entrer aussi, qui est qu'Internet peut être payant. On paye aujourd'hui pour de la musique avec Spotify et Deezer, on paye pour de la vidéo avec Netflix. Ben, payons pour de l'information avec Mediapart, Archives du Présent et Les Jours, quoi.
Isabelle Robert.
Oui, c'est un. Je voulais ajouter. Je voulais faire ma. Je mets mon costume de VRP. Et je dis que c'est 1 € par mois pendant la version pilote et ensuite.
Là, on est en version pilote, oui. Mmh. Oui, mais voilà. Justement, oui. Parlons des tarifs. Ensuite, ce sera 9 € par mois. Donc ça, c'est comme Mediapart également. Il y a un tarif réduit pour les chômeurs, ceux qui sont fauchés, et les étudiants de 5 € par mois. Voilà. Vous avez un abonnement également annuel.
À 90 euros,
voilà. Quant à vous, quant aux archives, Catherine Portevin, une offre de lancement qui est à 11,80 € par mois pour
c'est comme RAM.
Une offre annuelle de 14,80 €, oui c'est ça, il faut que ce soit en dessous d'un certain seuil, et puis une offre pour 3 mois de 19,80 €. J'ai quand même une question à vous poser de ce point de vue-là, puisque vous faites des entretiens. Par rapport à ce que peut offrir une radio comme France Culture, une radio de service public qui offre donc gratuitement des entretiens justement à ses auditeurs et qui a maintenant le podcast, comment vous positionnez-vous ?
Parce que là, sur le plan économique, c'est assez facile, c'est-à-dire que vous êtes un service public, nous évidemment on sera financé par nos abonnés. Donc il y a pas sur le plan économique, il y a pas vraiment de comparaison.
Non, il y a pas de comparaison, voilà. Mais par rapport à ce que vous pouvez apporter en termes d'entretien payant par rapport à ce que peut apporter une chaîne comme France Culture, est-ce que vous vous êtes positionné par rapport au service public, par rapport à une radio comme la nôtre, et au fait qu'on peut écouter, se constituer des bibliothèques sonores avec les podcasts.
Bien sûr.
Mais alors justement, vous dites, ce sont des entretiens qu'on n'entendra pas ailleurs parce que nous avons fait ces choix-là, par exemple d'écouter parler Isabelle Autissier. On l'a beaucoup cité, Isabelle Autissier, mais il y a aussi Florence Dupont, par exemple,
oui,
en ce moment.
Oui,
voilà.
Oui.
De quoi parle Florence Dupont, en l'occurrence ?
Florence Dupont, c'est une helléniste et latiniste bien connue qui torpille un peu, c'est ça que je trouve intéressant dans son travail, le mythe de l'antiquité grecque comme étant la source et l'origine pure de nos démocraties occidentales. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important la manière dont elle réfute cette imaginaire. Donc voilà, nous, Florence Dupont, ça ne veut pas dire évidemment qu'on prétend absolument pas aller voir des gens que personne n'a jamais entendu, que personne n'a jamais interviewé. Si on a pensé, et bien sûr qu'on écoute France Culture, bien sûr que nous, ce qui nous a intéressé dans France Culture, c'est que de constater que France Culture trouvait une autre vie par les podcasts. Ça, c'est quand même un phénomène très intéressant. Ça veut dire qu'il y a une curiosité, un appétit de savoir, même simplement, de choisir aussi le moment où on veut écouter les choses, qui est extrêmement important. Et ça, ça faisait partie des signaux qui nous rassuraient sur l'appétit des gens pour ce qu'on pouvait faire. Mais on prétend évidemment pas être les seuls. Et au contraire, d'une certaine manière, plus il y aura de gens plus il y aura de médias qui font des entretiens longs, ben tant mieux. C'est pas parce que il y a d'autres qui le font que nous ne pouvons pas le faire.
Vous parlez de l'appétit des gens, du formidable appétit des gens. Ça, c'est vrai, c'est aussi ce qu'on constate chaque jour. Est-ce que pour lesjours.fr, puisque je lisais, quelqu'un disait sur ces nouveaux magazines sont souvent beaucoup plus ciblés que les titres traditionnels. Est-ce que les uns les autres, vous avez pensé, en particulier vous, Les Jours, à une cible particulière, à un lectorat en particulier, où le public est très large et tout le monde est bienvenu?
Tout le monde est bienvenu, effectivement. Mais C'est difficile, on nous a posé plusieurs fois la question de quelle est notre cible. Notre cible, c'est des gens qui aiment l'information, qui ont envie de s'informer, qui ont envie de s'informer plus profondément. C'est impossible de dire c'est de la ménagère de moins de 50 ans, périurbaine, avec 3 enfants et demi, enfin, ou 4, pardon, ou le jeune de 15 à 24 ans.
Tout le monde est bienvenu, à condition donc de payer, puisque les deux sites en question...
Une somme modeste.
Une somme modeste, voilà. Les deux sites en question sont évidemment payants. Et on se quitte en entendant quelques secondes de la musique de Keren Ann sur son album 101, album dont la pochette illustre l'obsession à la fête du stream, votre enquête dans l'économie de la musique. Un grand merci à tous les trois, Isabelle Roberts, Raphaël Garrigos, lesjours.fr, et merci à vous Catherine Portevin, lesarchivesduprésent.fr également.
.com,
voilà qui est dit. On mettra bien sûr tout ça sur notre page de La Grande Table, sur notre site France Culture. .fr. Merci à tous les trois.
Merci.